Ce matin, je suis vraiment ému parce que cela n'arrive pas souvent que j'ai l'occasion de prendre la parole. Ça fait maintenant depuis quelques années, la troisième fois, je pense, aujourd'hui, la troisième fois que j'ai cette occasion de prendre la parole. Et je suis un peu aussi, pas perturbé, mais devant ces frères qui ont l'habitude chaque dimanche d'apporter le message, évidemment, je suis un peu impressionné. Alors, comme vous me voyez ici, je suis tout tremblant. Ça n'a pas l'air, mais je le suis. Malgré le fait que je fais la présidence de temps en temps et que je suis tout à fait à l'aise, la prédication de la parole, c'est autre chose. C'est un enseignement et c'est une grande responsabilité. Aussi, je vais m'efforcer de vous annoncer le conseil de Dieu le mieux que je peux avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Je vais vous demander de vous incliner dans la prière. Nous allons demander sa bénédiction pour chacun d'entre nous et pour moi-même qui vais devoir vous annoncer cette parole. Notre Père, notre Dieu, c'est en toi, Seigneur, que nous nous confions. Notre confiance ne se trouve pas en nous-mêmes, dans nos capacités propres, dans notre intellect. Notre confiance se trouve en toi, parce que c'est toi qui produis en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. C'est toi qui nous qualifie, c'est toi qui nous accorde vraiment tout le secours dont nous avons besoin. Et ce matin, Seigneur, particulièrement dans le culte que nous célébrons ensemble en ton honneur et pour ta gloire, nous voulons que tu nous ouvres le cœur. Nous te demandons que tu nous ouvres l'esprit, que nous puissions vraiment entendre ce que tu as à nous dire au travers des récits de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par une lecture qui n'est pas trop longue. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 1er. Jean 16, à partir du verset 1er. Je ferai la lecture jusqu'au verset 24. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je voudrais saluer tout particulièrement les personnes qui sont venues pour la première fois dans ce lieu, qu'ils se sentent vraiment chez eux, à la maison. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes membres de la même famille et c'est bien que vous soyez venus nous rejoindre ce matin. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous aide dans votre cheminement à poursuivre votre route. Et si le Seigneur le permet, en notre compagnie, et nous en serions très heureux. Voilà ce que l'Évangile de Jean, ce que l'apôtre nous enseigne. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Mais où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pour vous que j'ai dit. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux que signifie ce qu'il nous dit, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Il disait donc que signifie ce qu'il dit, « Encore un peu de temps. » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, « Vous vous questionnerez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jusque-là. Il y a quelques jours, nous avons célébré une fête importante, l'Ascension. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ est dans le calendrier de la liturgie chrétienne, qui est ponctuée d'ailleurs par trois grandes fêtes, la Noël, la naissance du Christ, la Pentecôte, pardon, c'est quatre, mais la Noël n'est pas reprise dans cette nomenclature, mais c'est plutôt la Pâque qui est célébrée. Il y a l'Ascension et ensuite il y a la Pentecôte. Trois grandes fêtes. Ces trois grandes fêtes-là ont toutes une signification très importante pour nous. D'abord, Pâques, qu'on peut qualifier en deux volets. La mort de Jésus, sa crucifixion, sa mise au tombeau, le prix qu'il a dû payer pour nous sauver. Et ensuite, sa résurrection, le triomphe de la vie sur la mort. Ce triomphe-là, le Seigneur l'a remporté parce qu'il a voulu vivre ce moment. La parole de Dieu le dit d'ailleurs, ce moment il a hâté ce moment, en quelque sorte. Il a voulu ce moment. Et quand ce moment est arrivé, nous savons que dans le jardin de Gethsémané, le Seigneur a quand même demandé au son Père, devant l'angoisse de la mort, devant les souffrances qui étaient prévisibles et qu'il savait être, lui qui était le créateur de toutes choses, il savait par quelle souffrance il allait devoir endurer cette croix. Mais Jésus a demandé à son Père si cette heure pouvait retarder un peu. On peut comprendre, il était à la fois un homme, un humain, et il avait des sentiments, il avait des émotions, il avait aussi cette peur qu'il avait saisie de devoir affronter une telle passion, un tel supplice. Mettons-nous à sa place. Si nous devions vivre cette réalité, est-ce que nous ne nous enfuirions pas? Je pense que oui. Aucun d'entre nous ne pourrait accepter de vivre ce que Jésus a vécu. Il a vécu cette mort parce qu'il nous aimait tellement. Il nous a tant aimés, la Bible le dit, qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour que le Seigneur Jésus s'est donné en notre faveur, parce qu'il nous a aimés. Le premier, il nous aime encore aujourd'hui, tel que nous sommes, avec nos défauts, avec nos écueils dans la vie, avec nos problèmes, avec nos chutes et nos faux pas. Le Seigneur n'est pas entamé dans son amour par notre vie, parce qu'il est amour et qu'il nous aime. Et c'est pour cela, son amour l'a poussé à aller jusqu'à la mort. Sa crucifixion est l'un des mystères les plus immenses, les plus incroyables de l'univers. Pourquoi un Dieu se crucifie-t-il pour ses créatures? Est-ce que vous avez déjà pu imaginer ça? Pensez un peu à cela. C'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus, qui meurt sur la croix. Donc il paye la dette que nous devons payer, que nous aurions dû payer, à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. Jésus détourne la colère de Dieu sur lui et l'accepte. Il assume ainsi pleinement de subir notre propre condamnation. C'est quelque chose de tout à fait étonnant et d'ineffable quand on y pense bien dans la profondeur de l'acte d'amour de Jésus. Mais ça dépasse l'imagination. Comment un Dieu aussi saint, aussi pur, aussi grand peut-il avoir donné sa vie pour nous ? Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Chers amis, nos offenses ne sont plus comptées. Tous ceux qui ont la foi en Jésus peuvent savoir que leurs offenses, leurs péchés ont été une fois pour toutes pardonnés. Nous sommes libérés de la condamnation de l'enfer, n'est-ce pas ? Extraordinaire ! Est-ce que ça ne doit pas faire surgir en nous de la joie, une reconnaissance profonde ? Nous avons chanté tout à l'heure des chants de reconnaissance et d'action de grâce. Mais c'est vrai, quand on pense à tout ce qu'il nous a donné, à tout ce que nous sommes devenus en lui, la foi qui nous anime, la joie que nous avons, la paix et surtout l'avenir, l'assurance de notre salut, l'éternité qui est là devant nous. Nous sommes les gens les plus heureux du monde. Des hommes et des femmes qui avons le plus grand des bonheurs. Il n'y a rien qui peut se comparer à ce que nous avons reçu. La paix de Dieu, l'assurance du salut, la vie éternelle. Oui, les chrétiens, c'est un peuple heureux. Et nous sommes heureux. Au travers des afflictions du monde, au travers des souffrances et des épreuves que nous pouvons traverser. Chacun d'entre nous, nous avons subi pas mal de revers dans la vie. Des échecs, nous avons il y a eu beaucoup de tristesse, des déceptions, des personnes qui nous ont profondément déçus, des circonstances qui nous ont affligés, des maladies qui nous ont frappés. Mais au travers de tout cela, le Seigneur a toujours été présent en nous et avec nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il ne nous abandonne pas à notre sort. Il vient nous secourir. Ensuite, il y a une deuxième fête. Il y a une deuxième fête, la fête de l'Ascension. Alors, je pense que c'est là-dessus que je m'en vais surtout vous parler. L'ascension de notre Seigneur Jésus est aussi quelque chose de tout à fait formidable. Il avait annoncé dans Jean, chapitre 16, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Et Il a laissé ce message, ce testament merveilleux aux disciples dans ce chapitre 16 et dans les autres chapitres de l'évangile de Jean, nous parlant précisément de cette importance qu'il a, non seulement de nous quitter. Voilà Jésus qui quitte son ministère terrestre. En quelque sorte, il a fini cette mission pour nous en confier une à nous. Jésus quitte sa mission, mais en fait, il ne la quitte pas. Il va simplement se déplacer dans le monde à venir. En fait, il va rejoindre le royaume de Dieu. Et là, la Bible nous dit aussi qu'il va servir d'avocat, de médiateur pour nous, entre Dieu et les hommes. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus, Fils de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre sa place. Aucun nom n'a été donné, aucun nom au-dessus de lui. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, à seule fin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quelle déclaration ! Mais quelle force que nous recevons au travers de ces promesses, de ce que nous vivons en nous-mêmes. Oui, le Seigneur Jésus a reçu ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et lorsque nous le prions, lorsque nous l'adorons, lorsque nous venons à lui tel que nous sommes, eh bien, il nous accueille avec un tel amour, avec une telle bonté. Il y avait de la joie dans le ciel quand le Seigneur Jésus est monté. Oh, on peut imaginer, hein, les anges se sont réjouis. Le cœur du Père était tellement dans la joie. Ce fut la fête dans le ciel. Mais les disciples qui étaient là, attardés à regarder le Seigneur Jésus monter, pensez-vous qu'ils étaient dans la joie ? Ils étaient dans la tristesse et dans le désarroi. L'évangile de Jean, chapitre 16, que nous avons lu, le dit. votre cœur sera rempli de tristesse, mais il se changera en joie. Ils étaient dans la tristesse parce que, en fait, le Seigneur les avait quittés. Ils avaient tellement, tellement, tellement eu l'habitude d'être avec lui. C'est la proximité de Jésus, ce qu'il a accompli. Ils étaient les témoins oculaires de tous ces miracles, de toutes ces guérisons et de toutes ces paroles merveilleuses. Ils étaient, eux, les témoins. Et quand Jésus les a quittés, ils se sont vraiment sentis orphelins. Mais Jésus leur a fait une promesse. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai habiter en vous, n'est-ce pas ?» C'est ça la promesse du Saint-Esprit. Et c'est ça aussi que le Seigneur nous a donné comme espérance. C'est qu'il ne nous laisse pas seuls. Nous sommes dans un monde hostile, difficile, je dirais ennemi de Dieu. Mais nous qui sommes ses enfants et qui avons reçu la grâce de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs et nous produit en nous le vouloir et le faire. Oui, il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, « Jésus les avait cependant prévenus de son prochain départ. » Mais cela n'a pas empêché, malgré tout, que quand il est parti, ils étaient étonnés, ils étaient surpris. On aurait dit que Jésus ne leur avait jamais parlé ainsi. Ils avaient été pris de court, en quelque sorte. Alors, ça nous arrive quelquefois d'être pris de court dans nos vies, hein. Quand nous sommes devant des épreuves ou des situations inattendues et que nous ne savons plus quoi faire, ils sont pris de court, mais le Seigneur est là pour nous donner, encore une fois là, le secours dont nous avons besoin, l'inspiration nécessaire. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui justifient que Jésus nous quitte. Il y a plusieurs raisons. D'abord, celle que je viens de vous annoncer, que Jésus a promis qu'il reviendrait, bien sûr, pour nous apporter le secours dont nous avons besoin, qu'il viendrait habiter en nous. Mais mieux encore, le secours que le Saint-Esprit nous apporterait le jour de la Pentecôte, 10 jours après. Après l'Ascension, c'est la Pentecôte. Et cette Pentecôte, c'est simplement la promesse que le Seigneur nous a faite au travers des Saintes Écritures, que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il a dit à ses disciples, « Allez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. » Et je vous l'enverrai. Et nous savons que ce jour-là, il y eut une effusion extraordinaire du Saint-Esprit qui vint sur ses disciples et qui les rendit capables, chers amis, par la suite, à évangéliser, à témoigner dans le monde entier, au point qu'il est dit que tout le bassin méditerranéen de l'époque ont été évangélisés par ces disciples qui avaient reçu cette puissance, cette autorité, ce dynamisme, cet amour pour les âmes. Dieu avait créé en eux, il avait donné à ses disciples toute la force nécessaire pour pouvoir assumer cette mission importante que d'évangéliser. Oui, il est dit aussi dans ce même en acte 1, 8, pardon, il est dit, vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu merci que ces hommes ont obéi, ces personnes ont obéi à l'ordre du Seigneur et que nous sommes, nous ici, les chrétiens du 21e siècle, les heureux bénéficiaires de ce que le Seigneur vraiment a accompli au travers d'eux. Ils ont été fidèles, ils ont prêché, ils ont annoncé l'Évangile. Et cela, pour nous, est quelque chose qui nous a atteint, en Europe en tout cas. L'Europe a été évangélisée par les missionnaires qui sont venus du Moyen-Orient. Et nous savons que l'Église, depuis lors, a grandi. Et qu'aujourd'hui encore, l'Église continue à grandir. Parce que la mission, au fond, que les apôtres ont eu à accomplir, est toujours la nôtre. Nous n'avons pas à nous soustraire de cette mission qui nous est imposée, d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. C'est la mission et la responsabilité de chaque croyant, en quelque sorte. Et nous sommes, nous, en tant que croyants de Jumet, en tant que croyants de l'église de la rue Baillemont, concernés en premier chef par cette obligation, je dirais, imposition de la part du Seigneur. Allez, c'est un ordre, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une option, mais c'est un ordre. Allez par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Donc nous avons, en quelque sorte, une responsabilité importante pour aller vers des hommes et des femmes de notre génération pour leur apporter l'Évangile. On sait bien qu'aujourd'hui, quand on va prêcher aux gens, quand on leur parle, c'est pas facile. Parce que s'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre aujourd'hui, c'est précisément du prêchi-prêchat. Ça ne les intéresse pas. Hier, nous avons encore eu l'occasion avec Damien de voir un petit peu la réaction de certaines personnes qui nous ont un peu attristés, bien sûr, le rejet de l'Évangile. On ne croit pas à ces bêtises. On ne veut pas de cela. On veut rester maître de sa vie. On se croit maître de sa vie, mais on ne l'est pas. Et quand on voit des réactions pareilles, ben je vous assure, ça fait mal. Mais oh combien nous ressentons le besoin, à ce moment-là, de continuer à témoigner, parce qu'il faut aller à l'encontre de cette ambiance infernale qui est en train de saisir les nations, de les éloigner de Dieu. En tout cas, de créer dans le cœur une telle opposition. Nous le voyons aussi avec les Gédéons. Quand nous allons dans les écoles, il y a une opposition de la part des parents. Dans des écoles qui sont institutionnellement catholiques et où il y a de l'opposition de la part des directions, de la part des parents. Quand nous donnons un Nouveau Testament, il y a de l'opposition. Vous vous rendez compte à quel point le monde d'aujourd'hui, notre pays chrétien de tradition, peut être éloigné des réalités célestes. Et nous sommes là, en plein dedans. Alors, chers amis, la puissance de l'Esprit qui a été donnée aux apôtres, je vous en prie, croyez-le, elle est la même puissance que nous avons reçue. Le Seigneur a donné à ses enfants qui sont nés de nouveau cette même autorité, cette même puissance, cette même injonction, je dirais, cette même mission à remplir, ce même ordre, aller par toutes les nations. Nous avons dans notre région de Charleroi des personnes qui se dévouent à corps et à cri pour aller chercher les pécheurs. Vous avez entendu parler du Coffee House, et ce n'est pas parce que notre frère Frédéric est là et Natacha que j'en parle ce matin, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup de voir à quel dévouement ces hommes, ces femmes qui se réunissent tous les samedis pour accueillir les personnes de la rue, les personnes qui en ont tellement besoin. Ils ne le savent pas, mais on leur apprend. Ils viennent quelquefois 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50 quelquefois, mais ils viennent et ils écoutent quoi? Mais ils écoutent un message qui est très court, mais un message qui est comme la semence qui tombe dans la terre, dans la bonne terre. Et ces hommes et ces femmes qui viennent, eh bien, recevront de toute façon, tôt ou tard, l'appel de Dieu, parce que la semence est en eux. Et c'est ça qui est encourageant. Aussi, je vous demande de prier pour cette œuvre, que ce soit pour l'évangélisation dans les rues, que ce soit pour le Coffee House, que ce soit pour n'importe quelle œuvre chrétienne. Nous avons besoin des prières des saints. Priez, parce que la prière est une force inouïe qui nous permet d'aller au-delà de notre propre courage, de nos propres efforts, de notre propre volonté. Dieu est là et c'est lui qui agit. Faisons-lui confiance et marchons dans l'attente de son retour. Il y a une promesse que le Seigneur nous a faite. Et cette promesse-là, elle est encore à venir. Qu'est-ce qu'il a fait comme promesse? Eh bien, cette promesse, elle est contenue dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et au verset au chapitre 4 et au verset 13, ainsi que dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 12, je pense. Voici ce qu'il est dit. Il est dit au sujet de l'avènement, de l'enlèvement de l'Église, cet événement que nous attendons avec impatience, parce que nous demandons au Seigneur de mettre un terme à la souffrance des hommes. Nous demandons qu'il vienne régner sur cette terre qui est tellement, tellement secouée par tant de scandales et par tant de cruautés. Les informations que nous entendons chaque jour en font part d'ailleurs largement. Au sujet de l'enlèvement de l'Église, il nous est dit ceci. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts ou qui, dans certaines traductions, nous disent qu'ils sont endormis, qu'ils dorment, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts ou qui se sont endormis en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Les premiers disciples ont été d'ardents témoins et ont pu, en une génération, en effet, prêcher la bonne nouvelle. Ils avaient reçu pour cela la promesse et la parole du Seigneur dans Marc 16:1, « Allez dans le monde, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et c'est ça qui m'effraie. Que ceux qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire, soient condamnés. Quand on imagine le sort cruel qui les attend pour ne pas avoir entendu ou pour ne pas avoir cru aux paroles de l'Évangile, c'est absolument effrayant. C'est pour cela que nous sommes concernés. C'est pour cela que cela doit nous impacter dans notre vie. Notre responsabilité, c'est quoi ? Mais c'est d'essayer d'atteindre les non-atteints. C'est d'essayer de leur dire ce que nous avons reçu. C'est de partager le trésor de la foi avec ceux qui ne l'ont pas. C'est de prier surtout pour que le Seigneur accomplisse vraiment au travers de notre témoignage, au travers de notre exemple, de l'exemple que nous pouvons donner d'une vie consacrée au Seigneur, l'exemple d'une vie lumineuse qui honore Dieu. Ouais. Témoigner, ça ne suffit pas. Il faut que la vie soit en correspondance avec ce que nous témoignons. Il faut que nous soyons des exemples et des modèles de vie dans l'honnêteté, dans les affaires, dans la pureté du cœur, dans la pureté avec les autres, dans tout cet aspect de sainteté dans laquelle le Seigneur nous engage à entrer, sans quoi nous ne pourrions pas avoir sa puissance ni son autorité. Si nous ne sommes pas consacrés au Seigneur 100%, alors, nous ne sommes pas consacrés du tout. C'est une échelle très haute. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas avoir un Évangile frelaté, un Évangile diminué, un Évangile impuissant. L'Évangile à laquelle nous croyons est un Évangile puissant qui délivre les hommes et les femmes. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, à annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, franchement, je vous fais un appel pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le cours de l'année. Nous avons plusieurs personnes qui sont déjà en route maintenant pour la distribution de ces merveilleux traités, non pas de boîte en boîte, mais de porte en porte. Et cela, nous le croyons, portera du fruit. Le temps ne nous appartient pas. Et le temps de l'exaucement ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Mais il est certain, c'est que le Seigneur honorera sa parole qui a été donnée et qui sera donnée. Alors, si certains d'entre vous se lèvent avec nous, eh bien, sachez bien que plus nous serons à évangéliser Jumet, plus vite cette commune sera amenée à l'Évangile. Plus vite des âmes seront sauvées. Nous ne savons combien de personnes que le Seigneur a déjà travaillé le cœur. Il suffit simplement d'aller vers eux et de leur dire « Le Seigneur vous aime ». Oui, l'ascension devrait nous rappeler à nous les disciples du XXIe siècle que ce même pouvoir que les apôtres ont reçu nous a été donné également. C'est le Saint-Esprit qui convainc par sa parole. En effet, il nous a dit « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée ». Mais alors, Romains nous dit quelque chose de très important. Chapitre 14 de Romains, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit ceci. « Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? » Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous sommes témoins. Et poursuivons inlassablement la mission la plus formidable de tous les temps, évangéliser nos compatriotes. devrait être notre préoccupation première. Alors, entrons dans cette bannière, entrons sous sa bannière et soyons ses témoins aujourd'hui et jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et si nous ne savons pas aller dans la rue, au moins prenons le temps de prier pour ceux qui sont dans le combat, pour ceux qui témoignent, pour nos pasteurs, pour nos évangélistes, pour tous ceux qui sont là et qui veulent absolument donner aux autres ce qu'ils ont reçu. Comment pouvoir conserver en nous le trésor de la foi et de l'amour que Dieu nous a donné? Ce ne serait pas normal. Nous pourrions déborder, nous ne pourrions pas contenir en quelque sorte cet amour pour nous-mêmes, pour nous tout seuls. Il faut la donner, il faut la partager. Que le Seigneur vraiment nous aide au travers de cette petite méditation et de ce rappel des obligations qui sont les nôtres finalement, d'entrer dans l'arène. Car c'est une arène, hein. Croyez bien qu'on ne va pas dans les rues prêcher l'Évangile sans problème. Il y a des problèmes. Mais est-ce que ces problèmes sont plus grands que Dieu? Mais Dieu est plus grand que nos problèmes. C'est pour cela qu'il nous faut aller témoigner, confesser son nom et faire en sorte que nous puissions voir de nombreux disciples venir. Oh, pas nécessairement dans notre communauté, tant mieux s'il y en a qui viennent, mais que partout ils puissent prendre conscience de la réalité spirituelle des événements qui sont en train de se produire dans le monde, de la proximité du retour du Seigneur, et nous-mêmes, sachant toutes ces choses, eh bien, allons au combat. Comme ce cantique le dit, à de nouveaux combats, le Seigneur nous prépare et nous entraîne. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide tout au long de notre parcours terrestre et nous stimule à vivre cette réalité. Mais je vais prier pour que le Seigneur vraiment inculque, mette dans notre cœur ce sentiment, cette responsabilité que nous puissions avoir auprès des membres de nos familles, auprès de nos voisins, auprès de ceux qui nous entourent, pour annoncer la bonne nouvelle. Prions pour que le Seigneur donne à chacun d'entre nous cette possibilité. Notre Dieu, c'est toi qui es le maître du chantier. C'est toi le grand patron. C'est toi, Seigneur, qui as œuvré en sorte pour que vraiment chacun d'entre nous, nous puissions devenir tes enfants. Tu as merveilleusement, Seigneur, sauvé nos âmes. Nos cœurs ont été véritablement libérés du joug de l'ennemi. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, mon Père. Combien il est merveilleux de t'appartenir. Nous avons confiance en toi. Oui, j'ai confiance en mon Seigneur tout le long du chemin. J'ai confiance et nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que c'est toi qui produis le vouloir et le faire dans nos cœurs. Et je te demande de faire naître dans le cœur de mes frères et sœurs ce désir intense, ce grand désir de partager la parole, de témoigner de leur foi, de se comporter en tant que des disciples de Jésus, qui n'ont pas honte de leur conduite, mais qui marchent sur les empreintes de ses pas. Oui, Seigneur, étends tes mains sur nous chacun d'entre nous, sur moi-même et sur tous mes frères et sœurs ici présents dans ce lieu de culte et que nous puissions sortir de ce lieu avec le sentiment de devoir accomplir un devoir et que ce devoir, nous ne pouvons pas l'éviter. C'est ma prière que je t'adresse en leur faveur, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.